Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Première partie. Livre quatrième. Berlin, Potsdam, Frédéric. 2. Mon frère, mon cousin Moreau, ma sœur la comtesse de Farcy. 3. Julie Mondaine, Dinée, Pomerol, madame de Chastenay. 4. Cambrai, le régiment de Navarre, la Martinière. 5. Mort de mon père. 6. Regret. Mon père m'eût-il apprécié. 7. Retour en Bretagne. Séjour chez ma sœur aînée. Mon frère m'appelle à Paris. 8. Ma vie solitaire à Paris. 9. Présentation à Versailles. Chasse avec le roi. 10. Passage en Bretagne. Garnison de Dieppe. Retour à Paris avec Lucille et Julie. 11. De l'île de Sales. Flin. Vie d'un homme de lettres. 12. Jean de Lettres, portrait. 13. Famille Rosambeau, monsieur de Malesherbes, sa prédilection pour Lucille, apparition et changement de Massilfide. Chapitre 1. Berlin, mars 1821, revue en juillet 1846. Berlin, Potsdam, Frédéric. Il y a loin de Combourg à Berlin. D'un jeune rêveur à un vieux ministre, je retrouve dans ce qui précède ces paroles, dans combien de lieux ai-je commencé à écrire ces mémoires, et dans quel lieu les finirai-je. Près de 4 ans ont passé entre la date des faits que je viens de raconter et celle où je reprends ces mémoires. 1000 choses sont survenues, un second homme s'est trouvé en moi, l'homme politique. J'y suis fort peu attaché. J'ai défendu les libertés de la France qui seules peuvent faire durer le trône légitime. Avec le conservateur, j'ai mis M. de Villèle au pouvoir. J'ai vu mourir le duc de Berry et j'ai honoré sa mémoire. Afin de tout concilier, je me suis éloigné. J'ai accepté l'ambassade de Berlin. J'étais hier à Potsdam, caserne ornée, aujourd'hui sans soldat. J'étudiais le faux Julien dans sa fausse Athènes. On m'a montré à sans souci la table où un grand monarque allemand mettait en petits vers français les maximes encyclopédiques, la chambre de Voltaire décorée de singes et de perroquets de bois, le moulin que se fit un jeu de respecter celui qui ravageait des provinces, le tombeau du cheval César et des levrettes, Diane, Amourette, Biche, Superbe et Pax. Le royal impie se plut à profaner même la religion des tombeaux en élevant des mausolées à ses chiens. Il avait marqué sa sépulture auprès d'eux, moins par mépris des hommes que par ostentation du néant. On m'a conduit au nouveau palais, déjà tombant. On respecte dans l'ancien château de Potsdam les taches de tabac, les fauteuils déchirés et souillés, enfin toutes les traces de la malpropreté du prince renégat. Ces lieux immortalisent à la fois la saleté du cynisme, l'impudence de l'athée, la tyrannie du despote et la gloire du soldat. Une seule chose a attiré mon attention, l'aiguille d'une pendule fixée sur la minute où Frédéric expira. J'étais trompé par l'immobilité de l'image. Les heures ne suspendent point leur fuite. Ce n'est pas l'homme qui arrête le temps, c'est le temps qui arrête l'homme. Au surplus, peu importe le rôle que nous avons joué dans la vie, l'éclat ou l'obscurité de nos doctrines, nos richesses ou nos misères, nos joies ou nos douleurs, ne changent rien à la mesure de nos jours.
que l'aiguille circule sur un cadran d'or ou de bois, que le cadran plus ou moins large remplisse le chaton d'une bague ou la rosace d'une basilique, l'heure n'a que la même durée. Dans un caveau de l'église protestante, immédiatement au-dessous de la chaire du schismatique défroqué, j'ai vu le cercueil du sophiste à couronne. Ce cercueil est de bronze. Quand on le frappe, il retentit. Le gendarme qui dort dans ce lit d'airain ne serait pas même arraché à son sommeil par le bruit de sa renommée. Il ne se réveillera qu'au son de la trompette lorsqu'elle l'appellera sur son dernier champ de bataille, en face du dieu des armées. J'avais un tel besoin de changer d'impression que j'ai trouvé du soulagement à visiter la maison de marbre. Le roi qui la fit construire m'adressa autrefois quelques paroles honorables quand, pauvre officier, je traversais son armée. Du moins, ce roi partagea les faiblesses ordinaires des hommes. Vulgaire comme eux, il se réfugia dans les plaisirs. Les deux squelettes se mettent-ils en peine aujourd'hui de la différence qui fut entre eux jadis, lorsque l'un était le grand Frédéric et l'autre Frédéric Guillaume? Sans Souci et la maison de marbre sont également des ruines sans maître. À tout prendre, bien que l'énormité des événements de nos jours ait rapetissé les événements passés, bien que Rosbach, Lissa, Lechnitz, Torgau, etc. ne soient plus que des escarmouches auprès des batailles de Marengo, d'Austerlitz, d'Iéna, de la Moscova, Frédéric souffre moins que d'autres personnages de la comparaison avec le géant enchaîné à Sainte-Hélène. Le roi de Prusse et Voltaire sont deux figures bizarrement groupés qui vivront. Le second détruisait une société avec la philosophie qui servait au premier à fonder un royaume. Les soirées sont longues à Berlin. J'habite un hôtel appartenant à Madame la Duchesse de Dinau. Dès l'entrée de la nuit, mes secrétaires m'abandonnent. Quand il n'y a pas de fête à la cour pour le mariage du grand-duc et de la grande duchesse Nicolas, je reste chez moi. Enfermée, seule, auprès d'un poêle à figure morne, je n'entends que le cri de la sentinelle de la porte de Brandebourg et les pas sur la neige de l'homme qui siffle les heures. À quoi passerai-je mon temps? Des livres? Je n'en ai guère. Si je continuais mes mémoires. Vous m'avez laissé sur le chemin de Combourg à Rennes. Je débarquais dans cette dernière ville chez un de mes parents. Il m'annonça tout joyeux qu'une dame de sa connaissance, allant à Paris, avait une place à donner dans sa voiture et qu'il se faisait fort de déterminer cette dame à me prendre avec elle. J'acceptai en maudissant la courtoisie de mon parent. Il conclut l'affaire et me présenta bientôt à ma compagne de voyage, marchande de mode, leste et désinvolte, qui se prit à rire en me regardant. À minuit, les chevaux arrivèrent et nous partîmes. Me voilà dans une chaise de poste, seule avec une femme au milieu de la nuit. Moi, qui de ma vie n'avais regardé une femme sans rougir, comment descendre de la hauteur de mes songes à cette effrayante vérité? Je ne savais où j'étais. Je me collais dans l'angle de la voiture de peur de toucher la robe de Madame Rose. Lorsqu'elle me parlait, je balbutiais sans lui pouvoir répondre. Elle fut obligée de payer le postillon, de se charger de tout, car je n'étais capable de rien. Au lever du jour, elle regarda avec un nouvel ébahissement ce nigaud dont elle regrettait de s'être emberloquée. Dès que l'aspect du paysage commença de changer et que je ne reconnus plus l'habillement et l'accent des paysans bretons, je tombai dans un abattement profond, ce qui augmenta le mépris que Madame Rose avait de moi. Je m'aperçus du sentiment que j'inspirais et je reçus de ce premier essai du monde une impression que le temps n'a pas complètement effacée. J'étais né sauvage et non vergogneux. J'avais la modestie de mes années, je n'en avais pas l'embarras. Quand je devinais que j'étais ridicule par mon bon côté, ma sauvagerie se changea en une timidité insurmontable. Je ne pouvais plus dire un mot. Je sentais que j'avais quelque chose à cacher et que ce quelque chose était une vertu. Je pris le parti de me cacher moi-même pour porter en paix mon innocence. Nous avancions vers Paris. À la descente de Saint-Cyr, je fus frappé de la grandeur des chemins et de la régularité des plantations. Bientôt nous atteignîmes Versailles. L'orangerie et ses escaliers de marbre m'émerveillèrent. Les succès de la guerre d'Amérique avaient ramené des triomphes au château de Louis XIV. La reine y régnait dans l'éclat de la jeunesse et de la beauté. Le trône, si près de sa chute, semblait n'avoir jamais été plus solide. Et moi, passant obscur, je devais survivre à cette pompe, je devais demeurer pour voir les bois de Trianon aussi déserts que ceux dont je sortais alors. Enfin, nous entrâmes dans Paris. Je trouvais, à tous les visages, un air goguenard. Comme le gentilhomme périgourdin, je croyais qu'on me regardait pour se moquer de moi. Madame Rose se fit conduire rue du Mail à l'hôtel de l'Europe et s'empressa de se débarrasser de son imbécile. À peine étais-je descendu de voiture qu'elle dit au portier « Donnez une chambre à ce monsieur !»« Votre servante » ajouta-t-elle en me faisant une révérence courte. « Je n'ai de mes jours revu Madame Rose. » Chapitre 2. Berlin, mars 1821. Mon frère, mon cousin Moreau, ma sœur la comtesse de Farcy. Une femme monta devant moi un escalier noir et raide, tenant une clé étiquetée à la main. Un savoyard me suivit, portant ma petite malle. Arrivée au troisième étage, la servante ouvrit une chambre. Le savoyard posa la malle en travers sur les bras d'un fauteuil. La servante me dit « Monsieur veut-il quelque chose ?» Je répondis « Non ». Trois coups de sifflet partirent, la servante cria « On y va !» sortit brusquement, ferma la porte et dégringola l'escalier avec le savoyard. Quand je me vis seul, enfermé, mon cœur se serra, d'une si étrange sorte qu'il s'en fallut peu que je ne reprisse le chemin de la Bretagne. Tout ce que j'avais entendu dire de Paris me revenait dans l'esprit. J'étais embarrassé de 100 manières. Je m'aurais voulu coucher et le lit n'était point fait. J'avais faim et je ne savais comment dîner. Je craignais de manquer aux usages. Fallait-il appeler les gens de l'hôtel? Fallait-il descendre? À qui m'adresser? Je me hasardais à mettre la tête à la fenêtre. Je n'aperçus qu'une petite cour intérieure, profonde comme un puits, où passaient et repassaient des gens qui ne songeaient de leur vie aux prisonniers du troisième étage. Je vins me rasseoir auprès de la salle alcôve où je me devais coucher, réduit à contempler les personnages du papier peint qui en tapissaient l'intérieur. Un bruit lointain de voix se fait entendre, augmente, approche. Ma porte s'ouvre, entre mon frère et un de mes cousins, fils d'une sœur de ma mère qui avait fait un assez mauvais mariage. Madame Rose avait pourtant eu pitié du Benet, elle avait fait dire à mon frère, dont elle avait su l'adresse à Rennes, que j'étais arrivée à Paris. Mon frère m'embrassa, mon cousin Moreau était un grand et gros homme, tout barbouillé de tabac, mangeant comme un ogre, parlant beaucoup, toujours trottant, soufflant, étouffant, la bouche entr'ouverte, la langue à moitié tirée, connaissant toute la terre, vivant dans les tripots, les antichambres et les salons. « Allons, chevalier, s'écria-t-il, vous voilà à Paris, je vais vous mener chez madame de Chastenay. » Qu'était-ce que cette femme dont j'entendais prononcer le nom pour la première fois? Cette proposition me révolta contre mon cousin Moreau. « Le chevalier a sans doute besoin de repos, dit mon frère. Nous irons voir madame de Farcy, puis il reviendra dîner et se coucher. » Un sentiment de joie entra dans mon cœur. Le souvenir de ma famille, au milieu d'un monde indifférent, me fut un baume. Nous sortîmes. Le cousin Moreau tempêta au sujet de ma mauvaise chambre et enjoignit à mon hôte de me faire descendre au moins d'un étage. Nous montâmes dans la voiture de mon frère et nous nous rendîmes au couvent qu'habitait madame de Farcy. Julie se trouvait depuis quelque temps à Paris pour consulter les médecins. Sa charmante figure, son élégance et son esprit l'avaient bientôt fait rechercher. J'ai déjà dit qu'elle était née avec un vrai talent pour la poésie. Elle est devenue une sainte après avoir été une des femmes les plus agréables de son siècle. L'abbé Caron a écrit sa vie. Ces apôtres qui vont partout à la recherche des âmes ressentent pour elles l'amour qu'un père de l'Église attribue au Créateur. Quand une âme arrive au ciel, dit ce père, avec la simplicité de cœur d'un chrétien primitif et la naïveté du génie grec, Dieu la prend sur ses genoux et l'appelle sa fille. Lucile a laissé une poignante lamentation à la sœur que je n'ai plus. L'admiration de l'abbé Caron pour Julie explique et justifie les paroles de Lucile. Le récit du saint prêtre montre aussi que j'ai dit vrai dans la préface du génie du christianisme et sert de preuve à quelques parties de mes mémoires. Julie, innocente, se livra aux mains du repentir. Elle consacra les trésors de ses austérités au rachat de ses frères. Et à l'exemple de l'illustre africaine, sa patronne, elle se fit martyre. L'abbé Caron, l'auteur de La vie des justes, et cet ecclésiastique, mon compatriote, le François de Paul de l'exil, dont la renommée, révélée par les affligés, perça même à travers la renommée de Bonaparte. La voix d'un pauvre vicaire proscrit n'a point été étouffée par les retentissements d'une révolution qui bouleversait la société. Il parut être revenu tout exprès de la terre étrangère pour écrire les vertus de ma sœur. Il a cherché parmi nos ruines, il a découvert une victime et une tombe oubliée. Lorsque le nouvel hagiographe fait la peinture des religieuses cruautés de Julie, on croit entendre Bossuet dans le sermon sur la profession de foi de Mademoiselle de la Vallière. Osera-t-elle toucher à ce corps si tendre, si chéri, si ménagé? N'aura-t-on point pitié de cette complexion délicate? Au contraire, c'est à lui principalement que l'âme s'en prend comme à son plus dangereux séducteur. Elle se met des bornes. Resserrée de toutes parts, elle ne peut plus respirer que du côté du ciel. Je ne puis me défendre d'une certaine confusion en retrouvant mon nom dans les dernières lignes tracées par la main du vénérable historien de Julie. Qu'ai-je à faire avec mes faiblesses auprès de si haute perfection? Ai-je tenu tout ce que le billet de ma sœur m'avait fait promettre lorsque je le reçus pendant mon émigration à Londres? Un livre suffit-il à Dieu? N'est-ce pas ma vie que je devrais lui présenter? Or, cette vie est-elle conforme au génie du christianisme? Qu'importe que j'ai tracé des images plus ou moins brillantes de la religion si mes passions jettent une ombre sur ma foi? Je n'ai pas été jusqu'au bout, je n'ai pas endossé le cilice. Cette tunique de mon viatique aurait bu et séché mes sueurs. Mais, voyageur lassé, je me suis assis au bord du chemin. Fatigué ou non, il faudra bien que je me relève, que j'arrive où ma sœur est arrivée. Il ne manque rien à la gloire de Julie. L'abbé Caron a écrit sa vie, Lucile a pleuré sa mort.
Chapitre 3. Berlin, 30 mars 1821. Julie mondaine, dîner, Pommerel, Madame de Chastenay. Quand je retrouvais Julie à Paris, elle était dans la pompe de la mondanité. Elle se montrait couverte de ses fleurs, parée de ses colliers, voilée de ses tissus parfumés que saint Clément défend aux premières chrétiennes. Saint Basile veut que le milieu de la nuit soit pour le solitaire ce que le matin est pour les autres, afin de profiter du silence de la nature. Ce milieu de la nuit était l'heure où Julie allait à des fêtes, dont ses vers, accentués par elle avec une merveilleuse euphonie, faisaient la principale séduction. Julie était infiniment plus jolie que Lucile. Elle avait des yeux bleus caressants et des cheveux bruns à gaufrure ou à grandes ondes. Ses mains et ses bras, modèles de blancheur et de forme, ajoutaient, par leurs mouvements gracieux, quelque chose de plus charmant encore à sa taille charmante. Elle était brillante, animée, riait beaucoup, sans affectation, et montrait en riant des dents perlées. Une foule de portraits de femmes du temps de Louis XIV ressemblait à Julie, entre autres ceux des trois Mortemart, mais elle avait plus d'élégance que Madame de Montespan. Julie me reçut avec cette tendresse qui n'appartient qu'à une sœur. Je me sentis protégée en étant serrée dans ses bras, ses rubans, son bouquet de roses et ses dentelles. Rien ne remplace l'attachement, la délicatesse
et le dévouement d'une femme. On est oublié de ses frères et de ses amis, on est méconnu de ses compagnons, on ne l'est jamais de sa mère, de sa sœur ou de sa femme. Quand Harold fut tué à la bataille d'Hastings, personne ne le pouvait indiquer dans la foule des morts. Il fallut avoir recours à une jeune fille, sa bien-aimée. Elle vint et l'infortuné prince fut retrouvé par Edith au cou de Signe. Editha swens els, quod sonat colum cicni. Mon frère me ramena à mon hôtel. Il donna des ordres pour mon dîner et me quitta. Je dînais solitaire, je me couchais triste. Je passai ma première nuit à Paris à regretter mes bruyères et à trembler devant l'obscurité de mon avenir. À 8 heures, le lendemain matin, mon gros cousin arriva. Il était déjà à sa 5e ou 6e course. « Eh bien, chevalier, nous allons déjeuner, nous dînerons avec Pomereul, et ce soir je vous mène chez madame de Chastenay. » Ceci me parut un sort, et je me résignai. Tout se passa comme le cousin l'avait voulu. Après déjeuner, il prétendit me montrer Paris et me traîna dans les rues les plus sales des environs du Palais-Royal, me racontant les dangers auxquels était exposé un jeune homme. Nous fûmes ponctuels au rendez-vous du dîner chez le restaurateur. Tout ce qu'on servit me parut mauvais. La conversation et les convives me montrèrent un autre monde. Il fut question de la cour, des projets de finances, des séances de l'académie, des femmes et des intrigues du jour, de la pièce nouvelle, des succès des acteurs, des actrices et des auteurs. Plusieurs Bretons étaient au nombre des convives, entre autres le chevalier de guerre et Pomereul. Celui-ci était un beau parleur, lequel a écrit quelques campagnes de Bonaparte, et que j'étais destiné à retrouver à la tête de la librairie. Pomereul, sous l'Empire, a joui d'une sorte de renom par sa haine pour la noblesse. Quand un gentilhomme s'était fait chambellan, il s'écriait plein de joie « Encore un pot de chambre sur la tête de ces nobles !» Et pourtant Pomereul prétendait, et avec raison, être gentilhomme. Il signait « Pomereux », se faisant descendre de la famille Pomereux des lettres de madame de Sévigné. Mon frère, après le dîner, voulut me mener au spectacle. Mais mon cousin me réclama pour madame de Chastenay, et j'allai avec lui chez ma destinée. Je vis une belle femme qui n'était plus de la première jeunesse, mais qui pouvait encore inspirer un attachement. Elle me reçut bien, tâcha de me mettre à l'aise, me questionna sur ma province et sur mon régiment. Je fus gauche et embarrassée. Je faisais des signes à mon cousin pour abréger la visite. Mais lui, sans me regarder, ne tarissait point sur mes mérites, affirmant que j'avais fait des vers dans le sein de ma mère, et m'invitant à célébrer madame de Chastenay. Elle me débarrassa de cette situation pénible, me demanda pardon d'être obligée de sortir, et m'invita à revenir la voir le lendemain matin, avec un son de voix si doux que je promis involontairement d'obéir. Je revins le lendemain seule chez elle. Je la trouvai couchée dans une chambre élégamment arrangée. Elle me dit qu'elle était un peu souffrante et qu'elle avait la mauvaise habitude de se lever tard. Je me trouvai pour la première fois au bord du lit d'une femme qui n'était ni ma mère ni ma sœur. Elle avait remarqué la veille ma timidité, elle la vainquit au point que j'osais m'exprimer avec une sorte d'abandon. J'ai oublié ce que je lui dis, mais il me semble que je vois encore son air étonnée. Elle me tendit un bras demi-nu et la plus belle main du monde, en me disant avec un sourire « Nous vous apprivoiserons ». Je ne baisai pas même cette belle main, je me retirai tout troublé, je partis le lendemain pour Cambrai. Qui était cette dame de Chastenay? Je n'en sais rien. Elle a passé comme une ombre charmante dans ma vie. Chapitre 4. Berlin, mars 1821. Cambrai, le régiment de Navarre, la Martinière. Le courrier de la Malle me conduisit à ma garnison. Un de mes beaux-frères, le vicomte de Châteaubourg, il avait épousé ma sœur Bénigne, restée veuve du comte de Québriac, m'avait donné des lettres de recommandation pour des officiers de mon régiment. Le chevalier de Guénan, homme de fort bonne compagnie, me fit admettre à une table où mangeaient des officiers distingués par leurs talents, messieurs Achard, Desmahis, Lamartinière. Le marquis de Mortemart était colonel du régiment, le comte d'Andrezel, major. J'étais particulièrement placé sous la tutelle de celui-ci. Je les ai retrouvés tous deux dans la suite. L'un est devenu mon collègue à la chambre des pairs, l'autre s'est adressé à moi pour quelques services que j'ai été heureux de lui rendre. Il y a un plaisir triste à rencontrer des personnes que l'on a connues à diverses époques de la vie et à considérer le changement opéré dans leur existence et dans la nôtre. Comme des jalons laissés en arrière, ils nous tracent le chemin que nous avons suivi dans le désert du passé. Arrivé en habit bourgeois au régiment, 24 heures après, j'avais pris l'habit de soldat. Il me semblait l'avoir toujours porté. Mon uniforme était bleu et blanc, comme jadis la jaquette de mes vœux. J'ai marché sous les mêmes couleurs, jeune homme et enfant. Je ne subis aucune des épreuves à travers lesquelles les sous-lieutenants étaient dans l'usage de faire passer un nouveau venu. Je ne sais pourquoi on osa se livrer avec moi à ces enfantillages militaires. Il n'y avait pas 15 jours que j'étais au corps qu'on me traitait comme un ancien. J'appris facilement le maniement des armes et la théorie. Je franchis mes grades de caporal et de sergent aux applaudissements de mes instructeurs. Ma chambre devint le rendez-vous des vieux capitaines comme des jeunes sous-lieutenants. Les premiers me faisaient faire leur campagne, les autres me confiaient leurs amours. La Martinière me venait chercher pour passer avec lui devant la porte d'une belle cambrésienne qu'il adorait. Cela nous arrivait 5 à 6 fois par jour. Il était très laid et avait le visage labouré par la petite vérole. Il me racontait sa passion en buvant de grands verres d'eau de groseille que je payais quelquefois. Tout aurait été à merveille sans ma folle ardeur pour la toilette. On affectait alors le rigorisme de la tenue prussienne. Petit chapeau, petite boucle serrée à la tête, queue attachée raide, habit strictement agrafé. Cela me déplaisait fort. Je me soumettais le matin à ces entraves, mais le soir, quand j'espérais n'être pas vu des chefs, je m'affublais d'un plus grand chapeau. Le barbier descendait les boucles de mes cheveux et desserrait ma queue. Je déboutonnais et croisais les revers de mon habit. Dans ce tendre négligé, j'allais faire ma cour pour la Martinière sous la fenêtre de sa cruelle flamande. Voilà qu'un jour, je me rencontre nez à nez avec monsieur d'Andrezel. « Qu'est-ce que cela, monsieur ? » me dit le terrible major. « Vous garderez 3 jours les arrêts. » Je fus un peu humilié, mais je reconnus la vérité du proverbe, qu'à quelque chose malheur est bon. Il me délivra des amours de mon camarade. Auprès du tombeau de Fénelon, je relus Télémaque. Je n'étais pas trop en train de l'historiette philanthropique de la vache et du prélat. Le début de ma carrière amuse mes ressouvenirs. En traversant Cambrai avec le roi après les 100 jours, je cherchais la maison que j'avais habitée et le café que je fréquentais. Je ne l'ai pu retrouver, tout avait disparu, hommes et monuments. Chapitre 5. Mort de mon père. L'année même où je faisais à Cambrai mes premières armes, on apprit la mort de Frédéric II. Je suis ambassadeur auprès du neveu de ce grand roi, et j'écris à Berlin cette partie de mes mémoires. À cette nouvelle importante pour le public, succéda une autre nouvelle, douloureuse pour moi. Lucile m'annonça que mon père avait été emporté d'une attaque d'apoplexie le surlendemain de cette fête de Langevine, une des joies de mon enfance. Parmi les pièces authentiques qui me servent de guide, je trouve les actes de décès de mes parents. Ces actes marquant aussi d'une façon particulière le décès du siècle. Je les consigne ici comme une page d'histoire. Extrait du registre de décès de la paroisse de Combourg pour 1786, où est écrit ce qui suit, folio 8, verso. Le corps de haut et puissant messire René de Chateaubriand, chevalier, comte de Combourg, seigneur de Gaugres, Le Plessis-Lépine, Boulay, Malétroit-Andol et autres lieux, époux de haute et puissante dame, Apolline Jeanne Suzanne de Bédé de la Bouétardais, dame comtesse de Combourg, âgée de 69 ans environ, mort en son château de Combourg, le 6 septembre, environ les 8 heures du soir, a été inhumé le 8, dans le caveau de la dite seigneurie, placé dans le château de notre église de Combourg, en présence de messieurs les gentilshommes, de messieurs les officiers de la juridiction et autres notables bourgeois sous-signants. Signé au registre, le comte du Petit Bois, de Montlouette, de Château d'Assy, de Launay, Moreau, Nourri de Mauny, avocat, Hermer, procureur, Petit, avocat et procureur fiscal, Robiou, Portal, le Douarin de Trévelec, recteur doyen de Dinger, Sévin, recteur. Dans le collationné délivré en 1812 par M. Laudin, maire de Combourg, les 19 mots portant titre « Haut et puissant messire », etc., sont biffés. Extrait du registre des décès de la ville de Saint-Servant, premier arrondissement du département d'Ille-et-Vilaine pour l'an 6 de la République, folio 35, recto, où est écrit ce qui suit. Le 12 prairial, en 6 de la République française, devant moi, Jacques Bourdas, officier municipal de la commune de Saint-Servant, élu officier public le 4 floréal dernier, sont comparus Jean Ballet, jardinier, et Joseph Boulin, journalier, lesquels m'ont déclaré qu'Apolline Jeanne Suzanne de Bédé, veuve de René-Auguste de Chateaubriand, est décédée au domicile de la citoyenne Guyon, située à Labalu, en cette commune, ce jour à 1 heure après-midi. D'après cette déclaration, dont je me suis assuré de la vérité, j'ai rédigé le présent acte, que Jean Ballet a seul signé avec moi, Joseph Boulin ayant déclaré ne le savoir faire, de se interpeller. Fait en la maison commune, les 10 jours et ans, signé Jean Ballet et Bourdas. Dans le premier extrait, l'ancienne société subsiste. Monsieur de Chateaubriand est un haut et puissant seigneur, etc., etc. Les témoins sont des gentilshommes et de notables bourgeois. Je rencontre parmi les signataires ce marquis de Montlouette qui s'arrêtait l'hiver au château de Combourg, le curé Sévin qui eut tant de peine à me croire l'auteur du génie du christianisme, hôte fidèle de mon père jusqu'à sa dernière demeure. Mais mon père ne coucha pas longtemps dans son linceul. Il en fut jeté hors quand on jeta la vieille France à la voirie. Dans l'extrait mortuaire de ma mère, la terre roule sur d'autres pôles. Nouveau monde, nouvelle ère. Le compute des années et les noms même des mois sont changés. Madame de Chateaubriand n'est plus qu'une pauvre femme qui habite au domicile de la citoyenne Guyon. Un jardinier et un journalier qui ne s'est pas signé attestent seuls la mort de ma mère. De parents et d'amis, point. Nulle pompe funèbre. Pour tout assistant, la Révolution. Chapitre 6. Berlin, mars 1821. Regret. Mon père m'eût-il apprécié. Je pleurais, monsieur de Chateaubriand. Sa mort me montra mieux ce qu'il valait. Je ne me souvins ni de ses rigueurs, ni de ses faiblesses. Je croyais encore le voir se promener le soir dans la salle de Combourg. Je m'attendrissais à la pensée de ses scènes de famille. Si l'affection de mon père pour moi se ressentait de la sévérité du caractère, au fond, elle n'en était pas moins vive. Le farouche maréchal de Montluc, qui, rendu camard par des blessures effrayantes, était réduit à cacher, sous un morceau de suaire, l'horreur de sa gloire. Cet homme de carnage se reproche sa dureté envers un fils qu'il venait de perdre. « Ce pauvre garçon, disait-il, n'a rien veut de moi qu'une contenance refroignée et pleine de mépris. Il a emporté cette créance que je n'ai su ni l'aimer ni l'estimer selon son mérite. À qui gardais-je à découvrir cette singulière affection que je lui portais dans mon âme ? Était-ce pas lui qui en devait avoir tout le plaisir et toute l'obligation ? Je me suis contraint et j'ai aîné pour maintenir ce vain masque, et y ai perdu le plaisir de sa conversation et sa volonté, quand et quand qu'il ne me peut avoir porté autre que bien froide, n'ayant jamais reçu de moi que rudesse, ni senti qu'une façon tyrannique. Ma volonté ne fut point portée bien froide envers mon père, et je ne doute point que malgré sa façon tyrannique, il ne m'aima tendrement. Il m'eût, j'en suis sûr, regretté, la Providence m'appelant avant lui. Mais lui, restant sur la terre avec moi, eût-il été sensible au bruit qui s'était levé de ma vie? Une renommée littéraire aurait blessé sa gentilhommerie. Il n'aurait vu dans les aptitudes de son fils qu'une dégénération. L'ambassade même de Berlin, conquête de la plume, non de l'épée, l'eût médiocrement satisfait. Son sang breton le rendait d'ailleurs frondeur en politique, grand opposant des taxes et violent ennemi de la cour. Il lisait la Gazette de Leyde, le Journal de Francfort, le Mercure de France et l'Histoire philosophique des deux Indes, dont les déclamations le charmaient. Il appelait l'abbé Raynal un maître-homme. En diplomatie, il était anti-musulman. Il affirmait que 40 000 polissons russes passeraient sur le ventre des janissaires et prendraient Constantinople. Bien que turcophage, mon père avait, nonobstant, rancune au cœur contre les polissons russes, à cause de ses rencontres à Danzig. Je partage le sentiment de M. de Chateaubriand sur les réputations littéraires ou autres, mais par des raisons différentes des siennes. Je ne sache pas dans l'histoire une renommée qui me tente. Fallut-il me baisser pour ramasser à mes pieds et à mon profit la plus grande gloire du monde, je ne m'en donnerais pas la fatigue. Si j'avais pétri mon limon, peut-être me fussé-je créé femme, en passion d'elle, ou si je m'étais fait homme, je me serais octroyé d'abord la beauté. Ensuite, par précaution contre l'ennui, mon ennemi acharné, il m'eût assez convenu d'être un artiste supérieur, mais inconnu, et n'usant de mon talent qu'au bénéfice de ma solitude. Dans la vie pesée à son poids léger, au nez de sa courte mesure, dégagée de toute piperie, il n'est que deux choses vraies, la religion avec l'intelligence, l'amour avec la jeunesse, c'est-à-dire l'avenir et le présent. Le reste n'en vaut pas la peine. Avec mon père finissait le premier acte de ma vie. Les foyers paternels devenaient vides, je les plaignais, comme s'ils eussent été capables de sentir l'abandon et la solitude. Désormais, j'étais sans maître et jouissant de ma fortune. Cette liberté m'effraya. Qu'en allais-je faire? À qui la donnerais-je? Je me défiais de ma force, je reculais devant moi. Chapitre 7, Berlin, mars 1821. Retour de Bretagne, séjour chez ma sœur aînée, mon frère m'appelle à Paris. J'obtins un congé. Monsieur d'Andrezel, nommé lieutenant-colonel du régiment de Picardie, quittait Cambrai. Je lui servis de courrier. Je traversai Paris, où je ne voulus pas m'arrêter un quart d'heure. Je revis les landes de ma Bretagne avec plus de joie qu'un Napolitain banni dans nos climats ne reverrait les rives de Portici, les campagnes de Sorrente. Ma famille se rassembla à Combourg. On régla les partages. Cela fait, nous nous dispersâmes comme des oiseaux s'envolent du nid paternel. Mon frère arrivé de Paris y retourna. Ma mère se fixa à Saint-Malo. Lucille suivit Julie. Je passai une partie de mon temps chez mesdames de Marigny, de Châteaubourg et de Farcy. Marigny, château de ma sœur aînée, à 3 lieues de Fougères, était agréablement situé entre 2 étangs, parmi des bois, des rochers et des prairies. J'y demeurai quelques mois, tranquille. Une lettre de Paris vint troubler mon repos. Au moment d'entrer au service et d'épouser mademoiselle de Rosambeau, mon frère n'avait pourtant point encore quitté la robe. Par cette raison, il ne pouvait monter dans les carrosses. Son ambition pressée lui suggéra l'idée de me faire jouir des honneurs de la cour afin de mieux préparer les voies à son élévation. Les preuves de noblesse avaient été faites pour Lucille lorsqu'elle fut reçue au chapitre de l'Argentière, de sorte que tout était prêt. Le maréchal de Duras devait être mon patron. Mon frère m'annonçait que j'entrais dans la route de la fortune, que déjà j'obtenais le rang de capitaine de cavalerie, rang honorifique et de courtoisie, qu'il serait ensuite aisé de m'attacher à l'ordre de Malte, au moyen de quoi je jouirais de gros bénéfices. Cette lettre me frappa comme un coup de foudre. Retourner à Paris, être présenté à la cour, et je me trouvais presque mal quand je rencontrais 3 ou 4 personnes inconnues dans un salon. Me faire comprendre l'ambition à moi qui ne rêvais que de vivre oublié. Mon premier mouvement fut de répondre à mon frère qu'étant l'aîné, c'était à lui de soutenir son nom, que quant à moi, obscur cadet de Bretagne, je ne me retirerais pas du service parce qu'il y avait des chances de guerre, mais que si le roi avait besoin d'un soldat dans son armée, il n'avait pas besoin d'un pauvre gentilhomme à sa cour. Je m'empressai de lire cette réponse romanesque à madame de Marigny qui jeta les hauts cris. On appela madame de Farcy qui se moqua de moi. Lucile m'aurait bien voulu soutenir, mais elle n'osait combattre ses sœurs. On m'arracha ma lettre et, toujours faible quand il s'agit de moi, je mandai à mon frère que j'allais partir. Je partis en effet. Je partis pour être présenté à la première cour de l'Europe, pour débuter dans la vie de la manière la plus brillante. Et j'avais l'air d'un homme que l'on traîne aux galères ou sur lequel on va prononcer une sentence de mort. Chapitre 8. Berlin, mars 1821. Ma vie solitaire à Paris. J'entrais dans Paris par le chemin que j'avais suivi la première fois. J'allais descendre au même hôtel, rue du Mail. Je ne connaissais que cela. Je fus logé à la porte de mon ancienne chambre, mais dans un appartement un peu plus grand et donnant sur la rue. Mon frère, soit qu'il fût embarrassé de mes manières, soit qu'il eût pitié de ma timidité, ne me mena point dans le monde et ne me fit faire connaissance avec personne. Il demeurait rue des Fossés-Montmartre. J'allais, tous les jours, dîner chez lui à 3 heures. Nous nous quittions ensuite et nous nous revoyions que le lendemain. Mon gros cousin Moreau n'était plus à Paris. Je passais 2 ou 3 fois devant l'hôtel de madame de Chastenay sans oser demander au Suisse ce qu'elle était devenue. L'automne commençait. Je me levais à 6 heures. Je passais au manège. Je déjeunais. J'avais heureusement alors la rage du grec. Je traduisais l'Odyssée et la Cyropédie jusqu'à 2 heures en entremêlant mon travail d'études historiques. À 2 heures, je m'habillais. Je me rendais chez mon frère. Il me demandait ce que j'avais fait, ce que j'avais vu. Je répondais « Rien ». Il haussait les épaules et me tournait le dos. Un jour, on entend du bruit au dehors. Mon frère court à la fenêtre et m'appelle. Je ne voulus jamais quitter le fauteuil dans lequel j'étais étendu au fond de la chambre. Mon pauvre frère me prédit que je mourrais inconnu, inutile à moi et à ma famille. À 4 heures, je rentrais chez moi. Je m'asseyais derrière ma croisée. 2 jeunes personnes, de 15 ou 16 ans, venaient à 7 heures dessiner à la fenêtre d'un hôtel bâti en face, de l'autre côté de la rue. Elles s'étaient aperçues de ma régularité, comme moi de la leur. De temps en temps, elles levaient la tête pour regarder leurs voisins. Je leur savais un gré infini de cette marque d'attention. Elles étaient ma seule société à Paris. Quand la nuit approchait, j'allais à quelques spectacles. Le désert de la foule me plaisait, quoiqu'il m'en coûtât toujours un peu de prendre mon billet à la porte et de me mêler aux hommes. Je rectifiais les idées que je m'étais formées du théâtre à Saint-Malo. Je vis madame Saint-Huberti dans le rôle d'Armide. Je sentis qu'il avait manqué quelque chose à la magicienne de ma création. Lorsque je ne m'emprisonnais pas dans la salle de l'opéra ou des Français, je me promenais de rue en rue ou le long des quais, jusqu'à 10 et 11 heures du soir. Je n'aperçois pas encore aujourd'hui la file des réverbères de la place Louis XV à la barrière des bonshommes sans me souvenir des angoisses dans lesquelles j'étais quand je suivis cette route pour me rendre à Versailles lors de ma présentation. Rentré au logis, je demeurais une partie de la nuit, la tête penchée sur mon feu qui ne me disait rien. Je n'avais pas, comme les Persans, l'imagination assez riche pour me figurer que la flamme ressemblait à l'anémone et la braise à la grenade. J'écoutais les voitures, allant, venant, se croisant. Leur roulement lointain imitait le murmure de la mer sur les grèves de ma Bretagne ou du vent dans mes bois de Combourg. Ces bruits du monde qui rappelaient ceux de la solitude réveillaient mes regrets. J'évoquais mon ancien mal, ou bien mon imagination inventait l'histoire des personnages que ces chars emportaient. J'apercevais des salons radieux, des bals, des amours, des conquêtes. Bientôt, retombé sur moi-même, je me retrouvais, délaissé dans une hôtellerie, voyant le monde par la fenêtre et l'entendant aux échos de mon foyer. Rousseau croit devoir à sa sincérité, comme à l'enseignement des hommes, la confession des voluptés suspectes de sa vie. Il suppose même qu'on l'interroge gravement et qu'on lui demande compte de ses péchés avec les données pericolanti de Venise. Si je m'étais prostituée aux courtisanes de Paris, je ne me croirais pas obligée d'en instruire la postérité. Mais j'étais trop timide d'un côté, trop exaltée de l'autre, pour me laisser séduire à des filles de joie. Quand je traversais les troupeaux de ces malheureuses attaquant les passants pour les hisser à leurs entresols, comme les cochers de Saint-Cloud pour faire monter les voyageurs dans leurs voitures, j'étais saisie de dégoût et d'horreur. Les plaisirs d'aventure ne m'auraient convenu qu'au temps passé. Dans les 14e, 15e, 16e et 17e siècles, la civilisation imparfaite, les croyances superstitieuses, les usages étrangers et demi-barbares mêlaient leurs romans partout. Les caractères étaient forts, l'imagination puissante, l'existence mystérieuse et cachée. La nuit, autour des hauts murs des cimetières et des couvents, sous les remparts déserts de la ville, le long des chaînes et des fossés des marchés, à l'orée des quartiers clos, dans les rues étroites et sans réverbère, où des voleurs et des assassins se tenaient embusqués, où des rencontres avaient lieu, tantôt à la lumière des flambeaux, tantôt dans l'épaisseur des ténèbres, c'était au péril de sa tête qu'on cherchait le rendez-vous donné par quelque Héloïse. Pour se livrer au désordre, il fallait aimer, véritablement. Pour violer les mœurs générales, il fallait faire de grands sacrifices. Non seulement il s'agissait d'affronter des dangers fortuits et de braver le glaive des lois, mais on était obligé de vaincre en soi l'empire des habitudes régulières, l'autorité de la famille, la tyrannie des coutumes domestiques, l'opposition de la conscience, les terreurs et les devoirs du chrétien. Toutes ces entraves doublaient l'énergie des passions. Je n'aurais pas suivi en 1788 une misérable affamée qui m'eût entraînée dans son bouge sous la surveillance de la police, mais il est probable que j'eusse mis à fin en 1606 une aventure du genre de celle qu'a si bien racontée Bassompierre. Il y a voix, 5 ou 6 mois, dit le maréchal, que toutes les fois que je passois sur le petit pont, car en ce temps-là le pont neuf n'était point bâti, une belle femme, lingère à l'enseigne des deux anges, me faisoit de grandes révérences et m'accompagnoit de la vue tant qu'elle pouvoit. Comme j'eus pris garde à son action, je la regardois aussi et la salua avec plus de soin. Il advint que lorsque j'arrivais de Fontainebleau à Paris, passant sur le petit pont, dès qu'elle m'aperçut venir, elle se mit sur l'entrée de sa boutique et me dit, comme je passois, « Monsieur, je suis votre servante. » Je lui rendis son salut, et me retournant de temps en temps, je vis qu'elle me suivoit de la vue, aussi longtemps qu'elle pouvoit. Bassompierre obtient un rendez-vous. « Je trouvais, dit-il, une très belle femme, âgée de 20 ans, qui étoit coiffée de nuit, n'ayant qu'une très fine chemise sur elle, et une petite jupe de revêche verte, et des mules aux pieds, avec un peignoir sur elle. Elle me plut bien fort. Je lui demandai si je ne pourrois pas la voir encore une autre fois. « Si vous voulez me voir une autre fois, me répondit-elle, ce sera chez une de mes tantes, qui se tient en la rue Bourlabé, proche des Halles, auprès de la rue aux Ours, à la 3e porte, du côté de la rue Saint-Martin. Je vous y attendrai depuis 10 heures jusqu'à minuit, et plus tard encore, je laisserai la porte ouverte. À l'entrée, il y a une petite allée que vous passerez vite, car la porte de la chambre de ma tante y répond, et trouverez un degré qui vous mènera à ce second étage. Je vins à 10 heures et trouvai la porte qu'elle m'avoit marquée, et de la lumière bien grande, non seulement au second étage, mais au 3e et au 1er encore. Mais la porte était fermée. Je frappai pour avertir de ma venue, mais j'ouïs une voix d'homme qui me demanda qui j'étois. Je m'en retournai à la rue aux Ours, et étant retourné pour la deuxième fois, ayant trouvé la porte ouverte, j'entrai jusque au second étage, où je trouvai que cette lumière étoie la paille du lit que l'on y brûloit, et deux corps nus étendus sur la table de la chambre. Alors je me retirai bien étonné, et en sortant je rencontrai des corbeaux, en terreur de mort, qui me demandèrent ce que je cherchois. Et moi, pour les faire écarter, mis l'épée à la main et passai outre, m'en revenant à mon logis, un peu ému de ce spectacle inopiné. Je suis allé à mon tour à la découverte, avec l'adresse donnée il y a 240 ans par Bassompierre. J'ai traversé le petit pont, passé les halles et suivi la rue Saint-Denis jusqu'à la rue aux Ours, à main droite. La première rue à main gauche, aboutissant rue aux Ours, est la rue Bourlabé. Son inscription, enfumée comme par le temps et un incendie, m'a donné bonne espérance. J'ai retrouvé la troisième petite porte, du côté de la rue Saint-Martin, tant les renseignements de l'historien sont fidèles. Là, malheureusement, les 2 siècles et demi que j'avais cru d'abord rester dans la rue ont disparu. La façade de la maison est moderne. Aucune clarté ne sortait ni du premier, ni du second, ni du troisième étage. Aux fenêtres de l'attique, sous le toit, régnait une guirlande de capucines et de pois de senteur. Au rez-de-chaussée, une boutique de coiffeur offrait une multitude de tours de cheveux accrochés derrière les vitres. Tout déconvenu, je suis entré dans ce musée des éponines. Depuis la conquête des Romains, les Gauloises ont toujours vendu leurs tresses blondes à des fronts moins parés. Mes compatriotes bretonnes se font tondre encore à certains jours de foire et troquent le voile naturel de leur tête pour un mouchoir des Indes. M'adressant à un merlan qui filait une perruque sur un peigne de fer, « Monsieur, n'auriez-vous pas acheté les cheveux d'une jeune lingère qui demeurait à l'enseigne des deux anges, près du petit pont ?» Il est resté sous le coup, ne pouvant dire ni oui ni non. Je me suis retiré, avec 1000 excuses, à travers un labyrinthe de toupets. J'ai ensuite erré de porte en porte, point de lingère de 20 ans, me faisant de grandes révérences, point de jeune femme franche, désintéressée, passionnée, coiffée de nuit, n'ayant qu'une très fine chemise, une petite jupe de revêche verte et des mules aux pieds, avec un peignoir sur elle. Une vieille grognon, prête à rejoindre ses dents dans la tombe, m'a pensé battre avec sa béquille. C'était peut-être la tante du rendez-vous. Quelle belle histoire que cette histoire de Bassompierre. Il faut comprendre une des raisons pour laquelle il avait été si résolument aimé. À cette époque, les Français se séparaient encore en 2 classes distinctes, l'une dominante, l'autre demi-serve. La lingère pressait Bassompierre dans ses bras comme un demi-dieu descendu au sein d'une esclave. Il lui faisait l'illusion de la gloire, et les Françaises, seules de toutes les femmes, sont capables de s'enivrer de cette illusion. Mais qui nous révélera les causes inconnues de la catastrophe? Était-ce la gentille grisette des deux anges, dont le corps gisait sur la table avec un autre corps? Quel était l'autre corps? Celui du mari ou de l'homme dont Bassompierre entendit la voix? La peste, car il y avait peste à Paris, ou la jalousie était-elle accourue dans la rue Bourlabé avant l'amour? L'imagination se peut exercer à l'aise sur un tel sujet. Mêlé aux inventions du poète, le cœur populaire, les fossoyeurs arrivant, les corbeaux et l'épée de Bassompierre, un superbe mélodrame sortira de l'aventure. Vous admirerez aussi la chasteté et la retenue de ma jeunesse à Paris. Dans cette capitale, il m'était loisible de me livrer à tous mes caprices, comme dans l'abbaye de Thélème, où chacun agissait à sa volonté. Je n'abusais pas néanmoins de mon indépendance. Je n'avais de commerce qu'avec une courtisane âgée de 216 ans, jadis éprise d'un maréchal de France, rivale du Béarnais auprès de mademoiselle de Montmorency, et amant de mademoiselle d'Entragues, sœur de la marquise de Verneuil, qui parle si mal de Henri IV. Louis XVI, que j'allais voir, ne se doutait pas de mes rapports secrets avec sa famille. Chapitre 9. Berlin, mars 1821. Présentation à Versailles. Chasse avec le roi. Le jour fatal arriva. Il fallut partir pour Versailles, plus mort que vif. Mon frère m'y conduisit la veille de ma présentation et me mena chez le maréchal de Duras, galant homme dont l'esprit était si commun qu'il réfléchissait quelque chose de bourgeois sur ses belles manières. Ce bon maréchal me fit pourtant une peur horrible. Le lendemain matin, je me rendis seul au château. On n'a rien vu quand on n'a pas vu la pompe de Versailles, même après le licenciement de l'ancienne maison du roi. Louis XIV était toujours là. La chose alla bien tant que je n'eus qu'à traverser les salles des gardes. L'appareil militaire m'a toujours plu et ne m'a jamais imposé. Mais quand j'entrai dans l'œil de bœuf et que je me trouvais au milieu des courtisans, alors commença ma détresse. On me regardait, j'entendais demander qui j'étais. Il se faut souvenir de l'ancien prestige de la royauté pour se pénétrer de l'importance dont était alors une présentation. Une destinée mystérieuse s'attachait aux débutants. On lui épargnait l'air protecteur méprisant qui composait avec l'extrême politesse les manières inimitables du grand seigneur. Qui sait si ce débutant ne deviendra pas le favori du maître? On respectait en lui la domesticité future dont il pouvait être honoré. Aujourd'hui, nous nous précipitons dans le palais avec encore plus d'empressement qu'autrefois, et ce qu'il y a d'étrange, sans illusion. Un courtisan réduit à se nourrir de vérité est bien près de mourir de faim. Lorsqu'on annonça le lever du roi, les personnes non présentées se retirèrent. Je sentis un mouvement de vanité. Je n'étais pas fier de rester. J'aurais été humilié de sortir. La chambre à coucher du roi s'ouvrit. Je vis le roi, selon l'usage, achever sa toilette, c'est-à-dire prendre son chapeau de la main du premier gentilhomme de service. Le roi s'avança, allant à la messe. Je m'inclinai. Le maréchal de Duras me nomma « Sire, le chevalier de Chateaubriand ». Le roi me regarda, me rendit mon salut, hésita, eut l'air de vouloir s'arrêter pour m'adresser la parole. J'aurais répondu d'une contenance assurée. Ma timidité s'était évanouie. Parler au général de l'armée, au chef de l'État, me paraissait tout simple, sans que je me rendisse compte de ce que j'éprouvais. Le roi, plus embarrassé que moi, ne trouvant rien à me dire, passa outre. Vanité des destinées humaines. Ce souverain que je voyais pour la première fois, ce monarque si puissant, était Louis XVI, à 6 ans de son échafaud. Et ce nouveau courtisan qu'il regardait à peine, chargé de démêler les ossements parmi des ossements, après avoir été, sur preuve de noblesse, présenté aux grandeurs du fils de Saint-Louis, le serait un jour à sa poussière, sur preuve de fidélité. Double tribut de respect à la double royauté du sceptre et de la palme. Louis XVI pouvait répondre à ses juges, comme le Christ aux Juifs. « Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres, pour laquelle me lapidez-vous » Nous courûmes à la galerie pour nous trouver sur le passage de la reine lorsqu'elle reviendrait de la chapelle. Elle se montra bientôt entourée d'un radieux et nombreux cortège. Elle nous fit une noble révérence, elle semblait enchantée de la vie, et ses belles mains, qui soutenaient alors avec tant de grâce le sceptre de tant de rois, devaient, avant d'être liée par le bourreau, ravauder les haillons de la veuve, prisonnière à la conciergerie. Si mon frère avait obtenu de moi un sacrifice, il ne dépendait pas de lui de me le faire pousser plus loin. Vainement, il me supplia de rester à Versailles afin d'assister le soir au jeu de la reine. « Tu seras, me disait-il, nommé à la reine et le roi te parlera. » Il ne me pouvait pas donner de meilleures raisons pour m'enfuir. Je me hâtais de venir cacher ma gloire dans mon hôtel garni, heureux d'être échappé à la cour, mais voyant encore devant moi la terrible journée des carrosses du 19 février 1787. Le duc de Coigny me fit prévenir que je chasserais avec le roi dans la forêt de Saint-Germain. Je m'acheminai de grand matin vers mon supplice, en uniforme de débutant, habit gris, veste et culotte rouge, manchette de bottes, bottes à l'écuyère, couteau de chasse au côté, petit chapeau français à galons d'or. Nous nous trouvâmes 4 débutants au château de Versailles, moi, les 2 messieurs de Saint-Marceau et le comte d'Hautefeuille. Le duc de Coigny nous donna nos instructions. Il nous avisa de ne pas couper la chasse, le roi s'emportant lorsqu'on passait entre lui et la bête. Le duc de Coigny portait un nom fatal à la reine. Le rendez-vous était au Val, dans la forêt de Saint-Germain, domaine engagé par la couronne au maréchal de Beauvau. L'usage voulait que les chevaux de la première chasse, à laquelle assistaient les hommes présentés, fussent fournis des écuries du roi. On bat au champ, mouvement d'armes, voix de commandement, on crie « le roi sort, monte dans son carrosse. Nous roulons dans les carrosses à la suite. Il y avait loin de cette course et de cette chasse avec le roi de France, à mes courses et à mes chasses dans les landes de la Bretagne, et plus loin encore, à mes courses et à mes chasses avec les sauvages de l'Amérique, ma vie devait être remplie de ces contrastes. Nous arrivâmes au point de ralliement où de nombreux chevaux de selle, tenus en main sous les arbres, témoignaient leur impatience. Les carrosses arrêtées dans la forêt avec les gardes, les groupes d'hommes et de femmes, les meutes à peine contenues par les piqueurs, les aboiements des chiens, le hennissement des chevaux, le bruit des corps, formaient une scène très animée. Les chasses de nos rois rappelaient à la fois les anciennes et les nouvelles mœurs de la monarchie, les rudes passe-temps de Clodion, de Chilpéric, de Dagobert, la galanterie de François Ier, de Henri IV et de Louis XIV. J'étais trop plein de mes lectures pour ne pas voir partout des comtesses de Chateaubriand, des duchesses, des Tempes, des Gabrielles d'Estrée, des Lavallières, des Montespan. Mon imagination prit cette chasse historiquement, et je me sentis à l'aise. J'étais d'ailleurs dans une forêt, j'étais chez moi. Au descendu des carrosses, je présentai mon billet au piqueur. On m'avait destiné une jument appelée l'Heureuse, bête légère mais sans bouche, ombrageuse et pleine de caprices, assez vive image de ma fortune qui chauvit sans cesse des oreilles. Le roi mis en selle partit. La chasse le suivit, prenant diverses routes. Je restai derrière à me débattre avec l'Heureuse qui ne voulait pas se laisser enfourcher par son nouveau maître. Je finis cependant par m'élancer sur son dos. La chasse était déjà loin. Je maîtrisai d'abord assez bien l'Heureuse. Forcée de raccourcir son galop, elle baissait le cou, secouait le mors blanchi d'écume, s'avançait de travers à petits bonds. Mais lorsqu'elle approcha du lieu de l'action, il n'y eut plus moyen de la retenir. Elle allonge le chanfrein, m'abat la main sur le garrot, vient au grand galop, donné dans une troupe de chasseurs, écartant tout sur son passage, ne s'arrêtant qu'aux heurts du cheval d'une femme qu'elle faillit culbuter au milieu des éclats de rire des uns, des cris de frayeur des autres. Je fais aujourd'hui d'inutiles efforts pour me rappeler le nom de cette femme qui reçut poliment mes excuses. Il ne fut plus question que de l'aventure du débutant. Je n'étais pas au bout de mes épreuves. Environ une demi-heure après ma déconvenue, je chevauchais dans une longue percée à travers des parties de bois désertes. Un pavillon s'élevait au bout. Voilà que je me mis à songer à ces palais répandus dans les forêts de la couronne, en souvenir de l'origine des rois chevelus et de leurs mystérieux plaisirs. Un coup de fusil part. L'Heureuse tourne court, brosse tête baissée dans le fourré et me porte juste à l'endroit où le chevreuil venait d'être abattu. Le roi paraît. Je me souvins alors, mais trop tard, des injonctions du duc de Coigny. La maudite Heureuse avait tout fait. Je saute à terre, d'une main poussant en arrière ma cavale, de l'autre tenant mon chapeau bas. Le roi regarde et ne voit qu'un débutant arrivé avant lui au fin de la bête. Il avait besoin de parler. Au lieu de s'emporter, il me dit avec un ton de bonhomie et un gros rire, « Il n'a pas tenu longtemps. » C'est le seul mot que j'ai jamais obtenu de Louis XVI. On vint de toutes parts, on fut étonné de me trouver causant avec le roi. Le débutant Chateaubriand fit du bruit par ses deux aventures. Mais, comme il lui est toujours arrivé depuis, il ne sut profiter ni de la bonne ni de la mauvaise fortune. Le roi força trois autres chevreuils. Les débutants ne pouvant courir que la première bête, j'allais attendre au Val avec mes compagnons le retour de la chasse. Le roi revint au Val, il était gai et comptait les accidents de la chasse. On reprit le chemin de Versailles. Nouveau désappointement pour mon frère. Au lieu d'aller m'habiller pour me trouver au déboté, moment de triomphe et de faveur, je me jetai au fond de ma voiture et rentrai dans Paris, plein de joie d'être délivré de mes honneurs et de mes maux. je déclarai à mon frère que j'étais déterminée à retourner en Bretagne. Content d'avoir fait connaître son nom, espérant amener un jour à maturité par sa présentation ce qu'il y avait d'avorté dans la mienne, il ne s'opposa pas au départ d'un frère d'un esprit aussi biscornu. Telle fut ma première vue de la ville et de la cour. La société me parut plus odieuse encore que je ne l'avais imaginée. Mais si elle m'effraya, elle ne me découragea pas. Je sentis confusément que j'étais supérieure à ce que j'avais aperçu. Je pris pour la cour un dégoût invincible. Ce dégoût, ou plutôt ce mépris que je n'ai pu cacher, m'empêchera de réussir ou me fera tomber du plus haut point de ma carrière. Au reste, si je jugeais le monde sans le connaître, le monde, à son tour, m'ignorait. Personne ne devina à mon début ce que je pouvais valoir, et quand je revins à Paris, on ne le devina pas davantage. Depuis ma triste célébrité, beaucoup de personnes m'ont dit « Comme nous vous eussions remarqué si nous vous avions rencontré dans votre jeunesse !» Cette obligeante prétention n'est que l'illusion d'une renommée déjà faite. Les hommes se ressemblent à l'extérieur. En vain, Rousseau nous dit qu'il possédait deux petits yeux tout charmants. Il n'en est pas moins certain, témoin ses portraits, qu'il avait l'air d'un maître d'école ou d'un cordonnier grognon. Pour en finir avec la cour, je dirais qu'après avoir revu la Bretagne et m'être venu fixer à Paris avec mes sœurs cadettes Lucille et Julie, je m'enfonçai plus que jamais dans mes habitudes solitaires. On me demandera ce que devint l'histoire de ma présentation. Elle resta là. Vous ne chassâtes donc plus avec le roi? Pas plus qu'avec l'empereur de Chine. Vous ne retournâtes donc plus à Versailles? J'allais deux fois jusqu'à Sèvres. Le cœur me faillit et je revins à Paris. Vous ne tirâtes donc aucun parti de votre position? Aucun. Que faisiez-vous donc? Je m'ennuyais. Ainsi, vous ne vous sentiez aucune ambition? Si fait, à force d'intrigues et de soucis, j'arrivais à la gloire d'insérer dans l'almanach des muses une idylle dont l'apparition me pensa tuer d'espérance et de crainte. J'aurais donné tous les carrosses du roi pour avoir composé la romance « Ô ma tendre musette » ou « De mon berger volage ». Propre à tout pour les autres, bon à rien pour moi, me voilà. Chapitre 10, Paris, juin 1821. Passage en Bretagne, garnison de Dieppe, retour à Paris avec Lucille et Julie. Tout ce qu'on vient de lire de ce livre quatrième a été écrit à Berlin. Je suis revenue à Paris pour le baptême du duc de Bordeaux et j'ai donné la démission de mon ambassade par fidélité politique à M. de Villèle, sorti du ministère. Rendu à mes loisirs, écrivons. À mesure que ces mémoires se remplissent de mes années écoulées, ils me représentent le globe inférieur d'un sablier, constatant ce qu'il y a de poussière tombée de ma vie. Quand tout le sable sera passé, je ne retournerai pas mon horloge de verre. Dieu m'en eût-il donné la puissance. La nouvelle solitude dans laquelle j'entrai en Bretagne après ma présentation n'était plus celle de Combourg. Elle n'était ni aussi entière, ni aussi sérieuse, et pour tout dire, ni aussi forcée. Il m'était loisible de la quitter. Elle perdait de sa valeur. Une vieille châtelaine armoriée, un vieux baron blasonné, gardant dans un manoir féodal leur dernière fille et leur dernier fils, offrait ce que les Anglais appellent des « caractères ». Rien de provincial, de rétréci dans cette vie, parce qu'elle n'était pas la vie commune. Chez mes sœurs, la province se retrouvait au milieu des champs. On allait dansant de voisins en voisins, jouant la comédie, dont j'étais quelquefois un mauvais acteur. L'hiver, il fallait subir à Fougères la société d'une petite ville, les bals, les assemblées, les dîners, et je ne pouvais pas, comme à Paris, être oublié. D'un autre côté, je n'avais pas vu l'armée, la cour, sans qu'un changement se fût opéré dans mes idées. En dépit de mes goûts naturels, je ne sais quoi se débattait en moi contre l'obscurité, me demandait de sortir de l'ombre. Julie avait la province en détestation. L'instinct du génie et de la beauté poussait Lucille sur un plus grand théâtre. Je sentais donc dans mon existence un malaise, par qui j'étais averti que cette existence n'était pas ma destinée. Cependant, j'aimais toujours la campagne, et celle de Marigny était charmante. Mon régiment avait changé de résidence. Le premier bataillon tenait garnison au Havre, le second à Dieppe. Je rejoignis celui-ci. Ma présentation faisait de moi un personnage. Je pris goût à mon métier. Je travaillais à la manœuvre, on me confia des recrues que j'exerçais sur les galets au bord de la mer. Cette mer a formé le fond du tableau dans presque toutes les scènes de ma vie. La Martinière ne s'occupait à Dieppe ni de son homonyme La Martinière, ni du père Simon, lequel écrivait contre Bossuet, Port-Royal et les Bénédictins, ni de l'anatomiste Péquet, que Madame de Sévigné appelle le petit Péquet, mais La Martinière était amoureux à Dieppe comme à Cambrai. Il dépérissait au pied d'une forte cauchoise dont la coiffe et le toupet avaient une demi-toise de haut. Elle n'était pas jeune. Par un singulier hasard, elle s'appelait Cauchy, petite fille apparemment de cette diepoise, Anne Cauchy, qui en 1645 était âgée de 150 ans. C'était en 1647 qu'Anne d'Autriche, voyant comme moi la mer par les fenêtres de sa chambre, s'amusait à regarder les brûlots se consumer pour la divertir. Elle laissait les peuples, qui avaient été fidèles à Henri IV, garder le jeune Louis XIV. Elle donnait à ces peuples des bénédictions infinies, malgré leur vilain langage normand. On retrouvait à Dieppe quelques redevances féodales que j'avais vues payer à Combourg. Il était dû aux bourgeois Vauquelin 3 têtes de porc ayant chacun une orange entre les dents et 3 sous marqués de la plus ancienne monnaie connue. Je revins passer un semestre à Fougères. Là régnait une fille noble appelée Mademoiselle de la Bellinet, tante de cette comtesse de Tronjoly dont j'ai déjà parlé. Une agréable laide, sœur d'un officier au régiment de Condé, attira mes admirations. Je n'aurais pas été assez téméraire pour élever mes vœux jusqu'à la beauté. Ce n'est qu'à la faveur des imperfections d'une femme que j'osais risquer un respectueux hommage. Madame de Farcy, toujours souffrante, prit enfin la résolution d'abandonner la Bretagne. Elle détermina Lucile à la suivre. Lucile, à son tour, vainquit mes répugnances. Nous prîmes la route de Paris, douce association des 3 plus jeunes oiseaux de la couvée. Mon frère était marié. Il demeurait chez son beau-père, le président de Rosambeau, rue de Bondy. Nous convînmes de nous placer dans son voisinage. Par l'entremise de M. Delisle de Sales, logé dans les pavillons de Saint-Lazare, au haut du faubourg Saint-Denis, nous arrêtâmes un appartement dans ces mêmes pavillons. Chapitre 11. Paris, juin 1821. Delisle de Sales. Flins, vie d'un homme de lettres. Madame de Farcy s'était accointé, je ne sais comment, avec Delisle de Sales, lequel avait été mis jadis à Vincennes pour des niaiseries philosophiques. À cette époque, on devenait un personnage quand on avait barbouillé quelques lignes de prose ou inséré un quatrain dans l'almanach des muses. Delisle de Sales, très brave homme, très cordialement médiocre, avait un grand relâchement d'esprit et laissait aller sous lui ses années. Ce vieillard s'était composé une belle bibliothèque avec ses ouvrages qu'il brocantait à l'étranger et que personne ne lisait à Paris. Chaque année au printemps, il faisait ses remontes d'idées en Allemagne. Gras et débraillé, il portait un rouleau de papier crasseux que l'on voyait sortir de sa poche. Il y consignait au coin des rues sa pensée du moment. Sur le piédestal de son buste en marbre, il avait tracé de sa main cette inscription, empruntée au buste de Buffon. « Dieu, l'homme, la nature, il a tout expliqué. » Delisle de Sales, tout expliqué. Ses orgueils sont bien plaisants, mais bien décourageants. Qui se peut flatter d'avoir un talent véritable? Ne pouvons-nous pas être, tous tant que nous sommes, sous l'empire d'une illusion semblable à celle de Delisle de Sales? Je parierais que tel auteur qui lit cette phrase se croit un écrivain de génie, et n'est pourtant qu'un sot. Si je me suis trop longuement étendu sur le compte du digne homme des pavillons de Saint-Lazare, c'est qu'il fut le premier littérateur que je rencontrai. Il m'introduisit dans la société des autres. La présence de mes 2 sœurs me rendit le séjour de Paris moins insupportable. Mon penchant pour l'étude affaiblit encore mes dégoûts. Delisle de Sales me semblait un aigle. Je vis chez lui Carbon, Flins des Oliviers, qui tomba amoureux de Madame de Farcy. Elle s'en moquait. Il prenait bien la chose, car il se piquait d'être de bonne compagnie. Flin me fit connaître Fontane, son ami, qui est devenu le mien. Fils d'un maître des eaux et forêts de Reims, Flin avait reçu une éducation négligée, au demeurant homme d'esprit et parfois de talent. On ne pouvait voir quelque chose de plus laid. Court et bouffi, de gros yeux saillants, des cheveux hérissés, des dents sales, et malgré cela, l'air pas trop ignoble. Son genre de vie, qui était celui de presque tous les gens de lettres de Paris à cette époque, mérite d'être raconté. Flin occupait un appartement rue Mazarine, assez près de la Harpe, qui demeurait rue Guénégaud. Deux Savoyards, travestis en laquais par la vertu d'une casaque de livrée, le servaient. Le soir, il le suivait et introduisait les visites chez lui le matin. Flin allait régulièrement au Théâtre Français, alors placé à l'Odéon, et excellent surtout dans la comédie. Brizard venait à peine de finir, Talma commençait, La Rive, Saint-Phal, Fleury, Mollet, d'Azincourt, Dugazon, Grand Ménil, Mesdames Contat, Saint-Val, Desgarcins, Olivier, étaient dans toute la force du talent, en attendant Mademoiselle Mars, fille de Montvel, prête à débuter au Théâtre Montansier, les actrices protégeaient les auteurs et devenaient quelquefois l'occasion de leur fortune. Flin, qui n'avait qu'une petite pension de sa famille, vivait de crédit. Vers les vacances du Parlement, il mettait en gage les livrées de ses Savoyards, ses deux montres, ses bagues et son linge, payait avec le prêt ce qu'il devait, partait pour Reims, y passait 3 mois, revenait à Paris, retirait au moyen de l'argent que lui donnait son père ce qu'il avait déposé au Mont-de-Piété et recommençait le cercle de cette vie, toujours gai et bien reçu. Chapitre 12, Paris, juin 1821, Jean de Lettres, portrait. Dans le cours des 2 années qui s'écoulèrent depuis mon établissement à Paris jusqu'à l'ouverture des États généraux, cette société s'élargit. Je savais par cœur les élégies du chevalier de Parny, et je les sais encore. Je lui écrivis pour lui demander la permission de voir un poète dont les ouvrages faisaient mes délices. Il me répondit poliment. Je me rendis chez lui, rue de Cléry. Je trouvai un homme assez jeune encore, de très bon ton, grand, maigre, le visage marqué de petites véroles. Il me rendit ma visite, je le présentai à mes sœurs. Il aimait peu la société et il en fut bientôt chassé par la politique. Il était alors du vieux parti. Je n'ai point connu d'écrivain qui fût plus semblable à ses ouvrages. Poète et créole, il ne lui fallait que le ciel de l'Inde, une fontaine, un palmier et une femme. Il redoutait le bruit, cherchait à glisser dans la vie sans être aperçu, sacrifiait tout à sa paresse et n'était trahi dans son obscurité que par ses plaisirs qui touchaient en passant sa lyre. Que notre vie heureuse et fortunée coule en secret sous l'aile des amours comme un ruisseau qui, murmurant à peine, et dans son lit resserrant tous ses flots, cherche avec soin l'ombre des arbrisseaux et n'ose pas se montrer dans la plaine. C'est cette impossibilité de se soustraire à son indolence qui, de furieux aristocrate, rendit le chevalier de Parny misérable révolutionnaire, attaquant la religion persécutée et les prêtres à l'échafaud, achetant son repos à tout prix et prêtant à la muse qui chanta Éléonore le langage de ces lieux où Camille Desmoulins allait marchander ses amours. L'auteur de l'histoire de la littérature italienne, qui s'insinua dans la Révolution à la suite de Champfort, nous arriva par ce cousinage que tous les Bretons ont entre eux. Ginguené vivait dans le monde sur la réputation d'une pièce de vers assez gracieuse, la Confession de Zulmé, qui lui valut une chétive place dans les bureaux de M. de Necker. De là, sa pièce sur son entrée au contrôle général, je ne sais qui disputait à Ginguené son titre de gloire, la Confession de Zulmé, mais dans le fait, il lui appartenait. Le poète rennais savait bien la musique et composait des romances. D'humble qu'il était, nous vîmes croître son orgueil à mesure qu'il s'accrochait à quelqu'un de connu. Vers le temps de la convocation des États généraux, Champfort l'employa à barbouiller des articles pour des journaux et des discours pour des clubs. Il se fit superbe. À la première fédération, il disait « Voilà une belle fête. On devrait, pour mieux l'éclairer, brûler quatre aristocrates aux quatre coins de l'hôtel. » Il n'avait pas l'initiative de ses vœux. Longtemps avant lui, le ligueur Louis d'Orléans avait écrit dans son banquet du comte d'Arrête qu'il fallait attacher en guise de fagot les ministres protestants à l'arbre du feu de Saint-Jean et mettre le roi Henri IV dans le muy où l'on mettoie les chats. Ginguené eut une connaissance anticipée des meurtres révolutionnaires. Madame Ginguené prévint mes sœurs et ma femme du massacre qui devait avoir lieu au Carme et leur donna asile. Elle demeurait cul-de-sac Férou, dans le voisinage du lieu où l'on devait égorger. Après la terreur, Ginguené devint quasi-chef de l'instruction publique. Ce fut alors qu'il chanta « L'arbre de la liberté » au cadran bleu. Sur l'air, je l'ai planté, je l'ai vu naître. On le jugea assez béat de philosophie pour une ambassade auprès d'un de ces rois qu'on découronnait. Il écrivait de Turin à M. de Talleyrand qu'il avait vaincu un préjugé. Il avait fait recevoir sa femme en tête en l'air à la cour. Tombé de la médiocrité dans l'importance, de l'importance dans la niaiserie et de la niaiserie dans le ridicule, il a fini ses jours littérateur distingué comme critique et ce qu'il y a de mieux, écrivain indépendant dans la décade. La nature l'avait remis à la place d'où la société l'avait mal à propos tiré. Son savoir est de seconde main, sa prose lourde, sa poésie correcte et quelquefois agréable. Ginguené avait un ami, le poète Lebrun. Ginguené protégeait Lebrun comme un homme de talent qui connaît le monde, protège la simplicité d'un homme de génie. Lebrun, à son tour, répandait ses rayons sur les hauteurs de Ginguené. Rien n'était plus comique que le rôle de ses deux compères, se rendant par un doux commerce tous les services que se peuvent rendre deux hommes supérieurs dans des genres divers. Lebrun était tout bonnement un faux monsieur de l'Empyrée. Sa verve était aussi froide que ses transports étaient glacés. Son Parnasse, chambre haute dans la rue Montmartre, offrait pour tout meuble des livres entassés pêle-mêle sur le plancher, un lit de sangle dont les rideaux, formés de deux serviettes sales, pendillaient sur une tringle de fer rouillée et la moitié d'un pot à l'eau à côté contre un fauteuil dépaillé. Ce n'est pas que Lebrun ne fût à son aise, mais il était avare et adonné à des femmes de mauvaise vie. Au souper antique de M. de Vaudreuil, il joua le personnage de Pindare. Parmi ses poésies lyriques, on trouve des strophes énergiques ou élégantes, comme dans l'ode sur le vaisseau Le Vengeur et dans l'ode sur les environs de Paris. Ses élégies sortent de sa tête, rarement de son âme. Il a l'originalité recherchée, non l'originalité naturelle. Il ne crée rien qu'à force d'art. Il se fatigue à pervertir le sens des mots et à les conjoindre par des alliances monstrueuses. Lebrun n'avait de vrai talent que pour la satire. Son épître sur la bonne et la mauvaise plaisanterie a joui d'un renom mérité. Quelques-unes de ses épigrammes sont à mettre auprès de celles de Jean-Baptiste Rousseau. La harpe, surtout, l'inspirait. Il faut encore lui rendre une autre justice. Il fut indépendant sous Bonaparte. Il reste de lui, contre l'oppresseur de nos libertés, des vers sanglants. Mais, sans contredit, le plus bilieux des gens de lettres que je connus à Paris à cette époque était Champfort. Atteint de la maladie qui a fait les Jacobins, il ne pouvait pardonner aux hommes le hasard de sa naissance. Il trahissait la confiance des maisons où il était admis. Il prenait le cynisme de son langage pour la peinture des mœurs de la cour. On ne pouvait lui contester de l'esprit et du talent, mais de cet esprit et de ce talent qui n'atteignent point la postérité. Quand il vit que sous la Révolution il n'arrivait à rien, il tourna contre lui-même les mains qu'il avait levées sur la société. Le bonnet rouge ne parut plus à son orgueil qu'une autre espèce de couronne, le sans-culottisme qu'une sorte de noblesse dont les Marat et les Robespierre étaient les grands seigneurs. Furieux de retrouver l'inégalité des rangs jusque dans le monde des douleurs et des larmes, condamné à n'être encore qu'un vilain dans la féodalité des bourreaux, il se voulut tuer pour échapper aux supériorités du crime. Il se manqua. La mort se rit de ceux qui l'appellent et qui la confondent avec le néant. Je n'ai connu l'abbé de Lille qu'en 1798 à Londres, et n'ai vu ni Rulière, qui vit par Madame d'Egmont et qui l'a fait vivre, ni Palissot, ni Beaumarchais, ni Marmontel. Il en est ainsi de Chénier, que je n'ai jamais rencontré, qui m'a beaucoup attaqué, auquel je n'ai jamais répondu, et dont la place à l'Institut devait produire une des crises de ma vie. Lorsque je relis la plupart des écrivains du XVIIIe siècle, je suis confondu et du bruit qu'ils ont fait et de mes anciennes admirations. Soit que la langue est avancée, soit qu'elle est rétrogradée, soit que nous ayons marché vers la civilisation ou battu en retraite vers la barbarie, il est certain que je trouve quelque chose d'usé, de passé, de grisaillé, d'inanimé, de froid dans les auteurs qui firent les délices de ma jeunesse. Je trouve même dans les plus grands écrivains de l'âge voltairien des choses pauvres de sentiments, de pensées et de style. À qui m'en prendre de mon mécompte? J'ai peur d'avoir été le premier coupable. Novateur né, j'aurais peut-être communiqué aux générations nouvelles la maladie dont j'étais atteint. Épouvanté, j'ai beau crier à mes enfants « N'oubliez pas le français !» Ils me répondent, comme le Limousin à Pantagruel, qu'ils viennent de l'Alme, inclute et célèbre académie que l'on vocite Lutèce. Cette manie de gréciser et de latiniser notre langue n'est pas nouvelle comme on le voit. Rabelais l'a guérie, elle reparut dans Ronsard, Boileau l'attaqua. De nos jours, elle a ressuscité par la science. Nos révolutionnaires, grands grecs par nature, ont obligé nos marchands et nos paysans à apprendre les hectares, les hectolitres, les kilomètres, les millimètres, les décagrammes. La politique a ronsardisé. J'aurais pu parler ici de monsieur de la Harpe, que je connus alors, et sur lequel je reviendrai. J'aurais pu ajouter à la galerie de mes portraits celui de Fontane. Mais bien que mes relations avec cet excellent homme prissent naissance en 1789, ce ne fut qu'en Angleterre que je me liais avec lui d'une amitié toujours accrue par la mauvaise fortune, jamais diminuée par la bonne. Je vous en entretiendrai plus tard dans toute l'effusion de mon cœur. Je n'aurai à peindre que des talents qui ne consolent plus la terre. La mort de mon ami est survenue au moment où mes souvenirs me conduisaient à retracer le commencement de sa vie. Notre existence est d'une telle fuite que si nous n'écrivons pas le soir l'événement du matin, le travail nous encombre et nous n'avons plus le temps de le mettre à jour. Cela ne nous empêche pas de gaspiller nos années, de jeter au vent ces heures qui sont pour l'homme les semences de l'éternité. Chapitre 13, Paris, juin 1821. Famille Rosambeau, Monsieur de Malesherbes, sa prédilection pour Lucile. Apparition et changement de ma sylphide. Si mon inclination et celle de mes deux sœurs m'avaient jeté dans cette société littéraire, notre position nous forçait d'en fréquenter une autre. La famille de la femme de mon frère fut naturellement pour nous le centre de cette dernière société. Le président Lepelletier de Rosambeau, mort depuis avec tant de courage, était, quand j'arrivais à Paris, un modèle de légèreté. À cette époque, tout était dérangé dans les esprits et dans les mœurs, symptôme d'une révolution prochaine. Les magistrats rougissaient de porter la robe et tournaient en moquerie la gravité de leur père. Les Lamoignons, les Mollets, les Séguiers, les d'Aguesseau voulaient combattre et ne voulaient plus juger. Les présidentes, cessant d'être de vénérables mères de famille, sortaient de leurs sombres hôtels pour devenir femmes à brillantes aventures. Le prêtre, en chair, évitait le nom de Jésus-Christ et ne parlait que du « législateur des chrétiens ». Les ministres tombaient les uns sur les autres, le pouvoir glissait de toutes les mains. Le suprême bon ton était d'être américain à la ville, anglais à la cour, prussien à l'armée, d'être tout excepté français. Ce que l'on faisait, ce que l'on disait, n'était qu'une suite d'inconséquences. On prétendait garder des abbés commanditaires et l'on ne voulait point de religion. Nul ne pouvait être officier s'il n'était gentilhomme, et l'on déblatérait contre la noblesse. On introduisait l'égalité dans les salons et les coups de bâton dans les camps. Monsieur de Malesherbes avait 3 filles, mesdames de Rosambeau, d'Aulnay, de Montboissier. Il aimait de préférence madame de Rosambeau à cause de la ressemblance de ses opinions avec les siennes. Le président de Rosambeau avait également 3 filles, mesdames de Chateaubriand, d'Aulnay, de Tocqueville, et un fils dont l'esprit brillant s'est recouvert de la perfection chrétienne. Monsieur de Malesherbes se plaisait au milieu de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Maintes fois, au commencement de la Révolution, je l'ai vu arriver chez madame de Rosambeau, tout échauffé de politique, jeter sa perruque, se coucher sur le tapis de la chambre de ma belle-sœur et se laisser lutiner avec un tapage affreux par les enfants ameutés. C'aurait été du reste un homme assez vulgaire dans ses manières s'il n'eût eu certaines brusqueries qui le sauvaient de l'air commun. À la première phrase qui sortait de sa bouche, on sentait l'homme d'un vieux nom et le magistrat supérieur. Ses vertus naturelles s'étaient un peu entachées d'affectation par la philosophie qui l'y mêlait. Il était plein de science, de probité et de courage, mais bouillant, passionné, au point qu'il me disait un jour, en parlant de Condorcet, « Cet homme a été mon ami. Aujourd'hui, je ne me ferai aucun scrupule de le tuer comme un chien. » Les flots de la Révolution le débordèrent, et sa mort a fait sa gloire. Ce grand homme serait demeuré caché dans ses mérites si le malheur ne l'eût décelé à la terre. Un noble Vénitien perdit la vie en retrouvant ses titres dans l'éboulement d'un vieux palais. Les franches façons de monsieur de Malesherbes m'ôtèrent toute contrainte. Il me trouva quelque instruction, nous nous touchâmes par ce premier point. Nous parlions de botanique et de géographie, sujet favori de ses conversations. C'est en m'entretenant avec lui que je conçus l'idée de faire un voyage dans l'Amérique du Nord pour découvrir la mer vue par Hearne et depuis par Mackenzie. Nous nous entendions aussi en politique. Les sentiments généreux du fond de nos premiers troubles allaient à l'indépendance de mon caractère. L'antipathie naturelle que je ressentais pour la cour ajoutait force à ce penchant. J'étais du côté de monsieur de Malesherbes et de madame de Rosambeau contre monsieur de Rosambeau et contre mon frère, à qui l'on donna le surnom de l'enragé Chateaubriand. La Révolution m'aurait entraîné si elle n'eût débuté par des crimes. Je vis la première tête portée au bout d'une pique, et je reculai. Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un objet d'admiration et un argument de liberté. Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste. N'ai-je pas rencontré en France toute cette race de Brutus au service de César et de sa police? Les niveleurs, régénérateurs, égorgeurs, étaient transformés en valets, espions, sycophantes, et moins naturellement encore en ducs, comtes et barons. Quel Moyen-Âge! Enfin, ce qui m'attacha davantage à l'illustre vieillard, ce fut sa prédilection pour ma sœur. Malgré la timidité de la comtesse Lucile, on parvint, à l'aide d'un peu de vin de champagne, à lui faire jouer un rôle dans une petite pièce à l'occasion de la fête de monsieur de Malesherbes. Elle se montra si touchante que le bon et grand homme en avait la tête tournée. Il poussait, plus que mon frère même, à sa translation du chapitre d'Argentière à celui de Remiremont, où l'on exigeait les preuves rigoureuses et difficiles des 16 quartiers. Tout philosophe qu'il était, M. de Malesherbes avait, à un haut degré, les principes de la naissance. Il faut étendre dans l'espace d'environ 2 années cette peinture des hommes et de la société à mon apparition dans le monde entre la clôture de la première assemblée des notables le 25 mai 1787 et l'ouverture des États généraux le 5 mai. 1789. Pendant ces 2 années, mes sœurs et moi, nous n'habitâmes constamment ni Paris, ni le même lieu dans Paris. Je vais maintenant rétrograder et ramener mes lecteurs en Bretagne. Du reste, j'étais toujours affolée de mes illusions. Si mes bois me manquaient, les temps passés, au défaut des lieux lointains, m'avaient ouvert une autre solitude. Dans le vieux Paris, dans les enceintes de Saint-Germain-des-Prés, dans les cloîtres des couvents, dans les caveaux de Saint-Denis, dans la Sainte-Chapelle, dans Notre-Dame, dans les petites rues de la cité, à la porte obscure d'Héloïse, je revoyais mon enchanteresse. mais elle avait pris, sous les arches gothiques et parmi les tombeaux, quelque chose de la mort. Elle était pâle, elle me regardait avec des yeux tristes. Ce n'était plus que l'ombre ou les mânes du rêve que j'avais aimé.